Mais je crois qu'on va pouvoir commencer. Il est 19h, donc merci mesdames et messieurs de vous être rendus disponibles pour ce conseil municipal de rentrée. Vous avez pu remarquer que l'ordre du jour n'est pas trop saturant, donc on va essayer de faire assez vite. Alors, nous avons les excuses d'Hugo pour ce soir, donc qui donne son pouvoir à Mireille Papin. Hugo a trouvé un travail à Paris, donc il sera quand même un peu plus gêné pour participer à nos réunions. Mais il viendra au séminaire et il essaiera de suivre les conseils municipaux. Jacques Pellegrin a donné son pouvoir à Michel Cosset. Claude Bougot a donné son pouvoir à Claude Bruno. Et Pierre Achard, qui lui aussi, avant de travailler 4 jours à Lausanne, et le lundi il était sur Saint-Prix, et là ça a permuté, donc il n'est plus disponible le lundi, mais il continuera à participer à nos travaux. Il sera là au séminaire. Donc Pierre Achard a donné son pouvoir à Antoine Di Paolo. Je vais demander à Mireille Papin si elle consent à être secrétaire de séance. Bien. C'est un consentement très net. Bien. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Avez-vous des observations ou des remarques à faire sur ce procès-verbal qui était celui, si je ne me trompe pas, du 26 juin. Des remarques, des questions. Donc, qui est contre son approbation? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Vous avez en point 1 des documents qui vous ont été envoyés, l'état des décisions du maire, donc l'ensemble des décisions que nous avons prises sur délégation. Donc on a souscrit en particulier un contrat de prêt auprès de la Caisse des dépôts d'un montant de 600 000 euros donc pour l'année, puisque vous savez que c'est nos engagements annuels en termes d'emprunt, sur 15 ans avec un taux d'intérêt de 3,81%. C'était le taux le plus intéressant, c'est un taux fixe, entendons-nous bien. Donc on a rencontré plusieurs établissements financiers et c'est celui-là que nous avons retenu. C'est un emprunt qu'on fait d'un point de vue prévisionnel au niveau budgétaire. Ça ne veut pas dire qu'on tire les fonds tout de suite. Un exemple, c'est que les 500 000 euros d'emprunt de 2022, nous n'avons tiré les fonds qu'au printemps 2023. Et simplement, au niveau budgétaire, il faut qu'on puisse le positionner. Puis après, vous avez tout un ensemble d'éléments relatif aux dépenses courantes et de fonctionnement. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on y reviendra avec une décision au niveau de la médiathèque. Des questions par rapport à ces décisions? Donc là aussi, il y en a eu relativement peu. Donc on va pouvoir passer au point suivant. C'est la convention communale de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État. Et je passe la parole à Antoine Di Paolo.
Oui, bonsoir, Antoine Di Paolo. Monsieur le maire expose, par délibération en date du 12 octobre 2020, le conseil municipal a approuvé une convention de coordination entre la police nationale et la police municipale de Saint-Priest-en-Jarez. Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale. Alors, je vais vous dire quelques mots sur le préambule. Donc, convention communale de coordination entre la police municipale de Saint-Priest-en-Jarez et les forces de sécurité de l'État. Entre le préfet de la Loire à Saint-Étienne, Alexandre Rochat, le maire de Saint-Priest-en-Jarez, Christian Servant, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, David Charmatz, le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire, Jean Haillet. La présente convention intervient dans le cadre de la commune de Saint-Priest-en-Jarez pour la coordination de la police municipale de Saint-Priest-en-Jarez et des forces de sécurité de l'État. Pardon. La police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez. En aucun cas, Il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. La présente convention, établie conformément aux dispositions des articles L.512-4 à L.512-7, le Code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de la police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État. Pour l'application de la présente convention, le responsable des forces de sécurité de l'État est le chef de la circonscription de sécurité publique de Saint-Étienne. Alors, je ne vais pas lire tous les articles, étant donné que cette convention n'a pas vraiment changé avec la précédente, hormis celui qui concerne les fourrières de véhicules qui a été un peu modifié. Donc, je vais vous la lire, c'est l'article 6. Alors, la police municipale intervient dans la gestion des fourrières de véhicules selon les règles et restrictions suivantes. Premièrement, sur le domaine public, elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules sur le domaine public et notamment les mises en fourrière effectuées en application de l'article L.325-2 du Code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétence ou en application du deuxième alinéa de ce dernier article par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale. Deuxièmement, sur le domaine privé, les opérations d'enlèvement des véhicules laissés sans droit sur le domaine privé, ouverts à la circulation, sont effectuées par les services de la police municipale sous l'autorité de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale, et à la demande du propriétaire des lieux, seul responsable en cas de litige. Les services de la police nationale sont informés par courriel de tout enlèvement de véhicules effectué par la police municipale. Troisièmement, les fourrières à effectuer sur le domaine privé non ouvert à la circulation restent de la compétence exclusive de l'officier de police judiciaire de la police nationale. C'est l'article R.325-47 du Code de la route. La police municipale devra être informée de tout enlèvement de véhicules effectué par la police nationale. L'inscription de tous les véhicules mis en fourrière sera effectuée par le fourriériste via système informatique des fourrières. Donc, la présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction express. Elle peut être dénoncée après un préavis de 6 mois par l'une ou l'autre des parties. Cette convention est arrivée à échéance. Je vous demande donc d'approuver la nouvelle convention communale de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État et d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Voilà, c'est une reconduction d'une convention par rapport à une situation actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que les missions confiées à la police municipale par le maire ou conjointement avec la police nationale peuvent évoluer dans le temps. On entend beaucoup parler, il y a des réflexions qui sont en cours sur le fait de confier aux polices municipales d'autres actions actuellement assumées par la police nationale. Si ça venait à être le cas, bien évidemment, on sera amené à modifier la convention. Des questions par rapport à cette convention ? Corinne Mourgue. On va
micro,
donner...
micro.
Du coup, je n'ai pas compris ce qu'il y a. Tu dis le paragraphe qu'on vient de lire sur les fourrières, il est nouveau. Ça veut dire qu'il n'existait pas du tout avant ou il a été changé ?
Il a été modifié en définitive. Et en particulier, c'est la problématique de la fourrière sur le domaine privé. Ou si le domaine privé est clos, on ne peut pas intervenir, même à la demande, de, par exemple, d'un bailleur social ou d'une copropriété. C'est à eux de s'en charger. On intervient automatiquement sur le domaine public et sur le domaine privé accessible.
La fourrière, maintenant, quand ils enlèvent un véhicule, c'est tout traité par informatique. Alors, c'est... Il n'y a pas beaucoup de changements, mais disons...
D'autres remarques ou questions ? Donc voilà, c'est une reconduction de convention de partenariat. Donc qui est contre cette reconduction ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc la convention est renouvelée et votée à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors le point suivant, normalement, c'était c'était une convention qu'on allait vous proposer suite à l'accord qu'on avait élaboré ensemble avec la société Maeva Kélis, vous savez, qui sont propriétaires maintenant du terrain du Péchier. Bon, je vous rappelle un petit peu la situation. Détection de métaux lourds dans le terrain qu'ils ont acheté. On les a rencontrés, on a discuté. On a donc, entre nous, défini le fait qu'on n'était pas en tort, mais que pour faciliter l'avancée des travaux, on pouvait prendre en charge une partie du coût de la dépollution. On a consulté notre avocat, nous a fait une proposition de convention, et on a donc envoyé ce projet de convention à M. Barthélémy et à Mme Bonacieux. On n'a pas eu de retour pour l'instant concret. Ça veut dire qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui, hormis le fait de dire on prend en charge 60%, comme on l'avait évoqué, on ne connaît pas le montant. Donc l'idée, on leur avait dit, si c'est urgent, faites-nous remonter rapidement le coût de la dépollution. Ils ont commencé les travaux. Sinon, ça passera au conseil d'aujourd'hui. Sinon, ça attendra le conseil de mi-novembre. On n'a pas de retour. Donc je vous propose de retirer cette délibération de l'ordre du jour. Et on la passera au mois de novembre quand on aura tous les éléments financiers et comptables. D'ailleurs, puisqu'on supprime une délibération, je vais vous demander l'autorisation, puisque vous les avez trouvés sur table, d'évoquer à la fin de l'ordre du jour officiel deux autres délibérations. Donc pour Maeva, peut-être qu'en définitive, ils ont retiré moins de terres à dépolluer que ce qu'ils pensaient. En tout cas, ils ont avancé les travaux. Donc ça ne fait pas obstacle au projet. Le point suivant, c'est l'approbation, là aussi c'est assez formel, du rapport de gestion de Novim pour l'exercice 2022. Je passe la parole à Claude Bruneau qui nous y représente.
Oui, bonsoir. Donc vous savez que le Code général des collectivités territoriales précise dans son article L1524-5 que les organes délibérants des collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration, moi-même. Afin de satisfaire à cette obligation, il convient de vous prononcer sur le rapport de gestion de Novim et les états financiers validés par l'Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2023, en précisant que ces documents étaient donc consultables au secrétariat général auprès de M. Frédéric Billon depuis quelque temps. Bien, comme
tu peux nous rappeler ce que c'est Novim ?
Oui, justement, c'est ce que je vais faire. Novim, donc, qui est l'ancienne SEDL, c'est un opérateur d'aménagement et de construction qui est donc au service du développement et de l'attractivité des territoires. C'est une société d'économie mixte, c'est-à-dire à la fois fonds publics et des fonds privés. Son capital est majoritairement détenu par les collectivités locales, territoires d'intervention région Auvergne-Rhône-Alpes, mais plus particulièrement sur la Loire. Ces domaines d'intervention donc étaient historiquement le renouvellement urbain et le développement économique. Et depuis 2019, elle se déploie également sur du portage immobilier et du tourisme. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle a pris son nouveau nom de Novim suite à la fusion de la SEDL avec la SEM Patrimoniale 42. Son statut de SEM, de Société d'économie mixte, la place au service de l'intérêt général puisque les opérations sont effectuées dans le respect du code de la commande publique, mais également son caractère industriel et commercial lui confère la capacité de s'associer à des partenaires pour des projets spécifiques. Voilà, en deux mots, ce qu'est Novim. Alors, moi, je veux bien vous détailler au niveau des actionnariats, le département, Rouennais Agglomération, etc., etc., les différentes communes. Dans l'actionnariat privé, il y a la Caisse des dépôts et consignations, Caisse d'épargne, Caisse régionale du crédit agricole, Dexia, CCI, Lyon Métropole, Saint-Étienne, Rouen, Chambre d'agriculture, Loire Habitat, chef de centre EDF, Crédit Mutuel, EPORA, SERL, etc. Donc, au niveau de ces comptes, je ne doute pas que vous soyez allé les consulter et que vous ayez examiné ça avec la plus grande attention. Hein, je ne vais rien développer du tout à ce niveau-là, si ce n'est vous préciser qu'il y a donc un bénéfice de 21 293 euros pour l'année 2022.
Alors bon, on vous nous demande de valider un rapport donc d'activité, un rapport de gestion, sachant que les mêmes documents, rapport de gestion état financier, ont été validés par l'Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2023. Donc les administrateurs ont déjà validé ces documents. Donc je vous demande d'accepter de valider ces documents.
Juste une petite précision, Saint-Priest-en-Jarez, 0,01% des actions.
Oui, parce qu'on s'arrête à deux chiffres après la virgule. À deux chiffres après la virgule. Bien, alors, qui est contre l'approbation de ces comptes? Qui s'abstient? Donc, qui est pour? À l'unanimité, à 100%, on valide donc le rapport de gestion de Novim pour l'année 2022. La question suivante, c'est donc le Saint-Étienne Métropole et la révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Et je passe la parole à Mireille Papin. Vous aurez remarqué que depuis le début, c'est pas moi qui parle.
Bonsoir à tous. Donc, pour plus de clarté, ça s'appelle le PPGDLSID. Voilà, c'est quand même plus facile que... Monsieur le maire expose le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, le PPGDLSID, a été approuvé en Conseil métropolitain le 3 avril 2019 pour une période de 6 ans. Il traduit des orientations du territoire pour l'information et la gestion partagée des demandes de logement social. Conformément au Code de la construction et de l'habitation, le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, le PPGDLSID, doit être révisé pour intégrer les modifications suivantes que je vous détaillerai un petit peu. Alors, il y a d'abord la cotation de la demande de logement social. Ça, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis longtemps. Mais ça y est, cette année, à la fin de l'année, c'est mis en place. C'est initié par la loi Élan du 23 novembre 2018 et dont la mise en œuvre doit être effective au 31 décembre 2023. Donc, cette cotation, elle est rendue obligatoire. Elle consiste à attribuer une note à chaque demande de logement social en fonction de critères obligatoires issus du Code de la construction et de l'habitat, article L441-1, et de critères facultatifs proposés par l'État à travers le système national d'enregistrement, soit le SNE. L'objectif de cette réforme est d'assurer une plus grande transparence du processus d'attribution des logements sociaux et de fournir une aide à la décision pour les commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation de logements. Ça se passe donc une commission d'attribution, ça s'appelle maintenant la CALEOL. Les critères et les pondérations ci-dessous ont fait l'objet d'un travail technique partenarial et d'une validation en conférence intercommunale du logement le 4 juillet 2023. Donc, alors à titre, je vais peut-être pas tous vous les citer parce qu'il y a quand même, il y en a beaucoup. Il y a par exemple le DALO. Alors, le DALO, la cotation remporte quand même 710 points. Le DALO, c'est le droit opposable au logement. Si on ne peut pas accéder à un logement décent ou s'y maintenir, si on est hébergé chez un particulier dans une structure sociale, ou dans un logement de transition, comme les foyers résiduels, les hôtelières sociales, si on est logé dans des locaux impropres, dangereux, si on est handicapé, si on a à charge ou si on a à charge une personne handicapée ou un enfant mineur, et qu'on occupe un logement indécent ou suroccupé, c'est-à-dire qu'on est à 8 pour un logement de 2 personnes, je force le trait un peu. Et si on a une ou plusieurs demandes de logement social restées sans réponse, donc ou un délai anormalement long, à ce moment-là, on a le droit au DALO, c'est une demande en préfecture. Et on rapporte, voilà, 710 points quand on fait une demande sur, voilà, pour un logement. On a sinon les quartiers un peu en difficulté, 20 points. Alors, vous les avez tous, je ne sais pas si vous voulez que je vous les dise tous, mais il y a l'handicap, c'est 50 points, période longue durée de chômage, 20 points, enfin, voilà. Il y a tout un... Il y a plusieurs critères. On fait l'addition et donc, en Caléol, en commission d'attribution de logement, il faudra prendre en compte ces différents critères. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cotation.
Ce qu'on peut dire, c'est que cette cotation ou cette notation vise à donner à noter tout un ensemble de situations qu'on examinait déjà en commission, mais de façon plus subjective ou aléatoire. Donc là, l'idée, c'est que ce soit automatique. Alors attention aussi qu'avec l'automatisme, ça ne débouche pas sur des situations, je dirais presque, d'automaticité ou de blocage par rapport à la réalité de certaines situations, très concrètement. Même si on arrivait à des notes importantes, il y a des situations de certains occupants ou futurs occupants qu'on n'a pas forcément envie de voir venir sur la commune parce qu'on les connaît d'ailleurs ou parce qu'ils ont déjà vécu sur la commune. Ils nous ont posé des problèmes. Mais cette démarche a quand même le mérite d'être objective dans son support et de pouvoir ensuite expliquer aux personnes qui ne comprendraient pas pourquoi qu'il y a des règles et qui sont maintenant objectivées avec cette cotation.
Cette cotation, elle remonte quand même en préfecture. Hein, donc il y aura un suivi un petit peu voilà, par rapport à ces points. Ensuite, il y a une actualisation des guichets d'information et d'enregistrement. Dans les précédents mandats, ça avait déjà été demandé si on voulait en fait être guichet 1. Alors, il y a deux sortes de guichets, guichet 1, guichet 2. Nous, on n'est concernés que par le guichet 1. Le guichet 2, ça a à voir avec le numéro d'enregistrement et ça a d'autres conséquences. Nous, on est au premier niveau. Et dans le précédent mandat, les personnes n'avaient, enfin, voilà, on n'avait pas choisi d'être guichet 1. Donc là, on nous redemande
la raison,
en fait.
Alors, le précédent mandat, c'est pareil. On disait, est-ce que vous voulez être guichet 1, donc d'accueil, d'accompagnement, mais sans avoir accès aux fichiers. Et guichet 2, c'est un peu plus lourd parce que là, c'est vraiment le traitement de la demande.
Tout à fait.
Et à l'époque, on s'était posé la question, on avait dit, on fait déjà, bon, c'était Bertrand Michel qui s'en occupait, un gros travail d'accompagnement, de préparation, c'est pas la peine qu'on rentre dans un circuit un petit peu administratif. Or, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que Muriel de Fouard l'accueil consacre une bonne partie de ses après-midi, puisqu'elle prend les rendez-vous le vendredi après-midi, pour recevoir les demandeurs.
Physiquement, les demandeurs.
Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui.
Donc c'est le lieu d'accueil d'information niveau 1, c'est effectivement l'accueil physique et téléphonique des demandeurs de logements sociaux, la mise à disposition des supports de communication, donc les supports de communication qui sont l'Internet, la demande de logement, enfin, toute l'information qui doit être apportée aux demandeurs. Et voilà. Les supports de communication édités en lien avec le plan partenarial de gestion et promotion des sites Internet mentionnés. Au paragraphe... Ça, c'est là. C'est au début, je crois.
Bon, l'idée, c'est de dire, ouais, voilà, on fait un travail aujourd'hui d'accueil qu'on faisait peut-être un peu moins avant. Ça serait peut-être l'occasion de passer en guichet 1. Alors, moi, j'étais content quand j'ai vu ça. J'ai dit, avec ce guichet 1, on va pouvoir accéder au SNE.
Pas du tout.
Pas du tout, parce que dans le SNE, on a tous les éléments d'information, y compris si la personne a déjà fait des demandes, si elle a refusé des logements ou des choses comme ça. Pas du tout. Mais au moins, comme le travail, on le fait, peut-être qu'il y a un petit plus à être officialisé en guichet 1. Donc ça, ce sera à nous de décider.
Absolument. Donc je donne quand même les diffusions à apporter aux demandeurs. C'est le site demande-logement-social.gouv.fr, le site service-public.fr, le site bien-VO qui regroupe tous les biens disponibles des bailleurs sociaux, le site Action Logement et les supports de communication produits à l'échelle de Saint-Étienne Métropole qui comportent les informations d'ordre général sur une demande de logement social.
Mireille, excuse-moi. Oui. Du coup, dans l'accueil qu'on fait déjà aujourd'hui, donc si je comprends bien, c'est une concrétisation de l'accueil qu'on
tout
fait.
Tout à fait,
est-ce
c'est une
qu'on va jusqu'à l'accompagnement de la saisie dans le dossier, logement, non ?
Non, sur ça c'est le guichet 2 qui est autorisé, c'est-à-dire ce sont les bailleurs sociaux qui sont autorisés. Donc les bailleurs sociaux, c'est sur la commune, c'est Loire Habitat, Habitat et Métropole, Alliade Habitat, qui était avant Cité Nouvelle, Immobilière Rhône-Alpes, Bâtir et Loger et le Toit Forésien. Et puis la prise en compte d'évolutions partenariales, changement de nom de certains organismes, la DIL 42-43, des DCS, voilà. Alors la conférence intercommunale du logement réunie le 4 juillet 2023 a donné un avis favorable à la cotation de la demande de logement social et aux modifications proposées dans le plan partenarial. La commune de Saint-Priest-en-Jarret, nous disposons au 1er janvier 2022, nous disposions de 622 logements sociaux sur la commune. A été saisie par Saint-Étienne Métropole pour rendre un avis dans un délai de 2 mois sur le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. La cotation est un outil d'aide à la décision, on l'a vu, pour les commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation de logements, la CALEOL. Elle consiste à attribuer une note à chaque demande en fonction d'un certain nombre de critères. L'objectif de la réforme est d'assurer une plus grande lisibilité et transparence du processus d'attribution des logements sociaux, tant pour les demandeurs que pour les acteurs qui interviennent dans le processus d'attribution des logements sociaux. Dans le cadre du plan partenarial de gestion, un réseau d'accueil et d'information des demandeurs de logement social et d'enregistrement des demandes est mis en place pour apporter une réponse adaptée et de proximité aux usagers. La commune de Saint-Priest-en-Jarret est favorable pour participer à ce réseau comme guichet de niveau 1. C'est ce qu'on a vu. Donc simplement l'accueil des personnes et toutes les informations qui sont liées au logement social. Donc je vous demande de bien vouloir approuver la révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, le PPGDLSID, incluant la cotation de la demande de logement social, et d'approuver l'identification de la commune comme lieu d'accueil et d'information dans le cadre du PPGDLSID, guichet de niveau 1.
Sachant que on ne vous avait pas présenté cette délibération, dans les 2 mois, Métropole considérait qu'elle était acquise. Mais on a voulu quand même vous le présenter, d'abord parce qu'il y a une évolution,
oui,
avec la cotation, et puis donc valider éventuellement le passage en guichet numéro 1.
Je voudrais juste compléter en disant qu'il y a quand même un objectif 4 dans ce plan. C'est la gestion des demandes de mutation interne. Les bailleurs sociaux s'engagent à poursuivre les actions pour favoriser ces mutations, mais de nouveaux besoins sont précisés comme pouvant être induits par l'une des situations suivantes, c'est-à-dire qu'on referme un petit peu quand même cette demande de mutation. Elle doit être induite par l'existence d'un nouveau besoin, comme le changement de situation personnelle, familiale ou professionnelle, et porter une attention particulière au traitement de ces demandes pour trouver une solution de logement répondant à ce nouveau besoin. Donc, qui peut être la survenance d'un handicap, une sous-occupation, une suroccupation, une baisse de ressources, une mobilité professionnelle ou la prévention d'une expulsion du logement. Donc on voit que si vous ne vous plaisez pas dans un secteur et que vous demandez une mutation, ça ne sera pas forcément accordé parce que là maintenant c'est quand même plus resserré sur des besoins. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour compléter.
L'idée, c'est quand même de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins, sans pour autant arriver à les satisfaire, parce qu'en définitive, tous ces critères-là peuvent être évoqués. Hein, une demande de mutation, hormis le fait de dire « je ne suis pas exposé plein sud », celui qui demande à changer de logement trouvera forcément dans l'ensemble de ces critères de quoi motiver sa demande.
C'est ce qu'on appelait ça des mutations de confort.
A contrario, sur la sous-occupation, Mireille, on a à l'inverse pas d'action. C'est forcément, enfin, ce que vous expliquez, c'est forcément à la demande de l'usager. Mais nous, la commission n'a pas d'action sur la sous-occupation pour un logement.
Pas encore. C'est à éviter. C'est vrai qu'on fait un peu la chasse au niveau des bailleurs, parce qu'on a des familles et puis qu'on ne peut pas leur donner. De logement, parce qu'il n'y en a pas, surtout qu'il y a peu de grands logements, en fait. Hein, chez nous, c'est toujours un petit peu difficile d'avoir un grand logement. Mais on ne peut pas contraindre, jusqu'à présent, on ne peut pas contraindre les personnes à partir.
À une époque, sur les logements sociaux qui étaient sous-occupés, il y avait la mise en place d'un surloyer.
Le surloyer est lié normalement aux conditions financières.
C'est ça.
Donc, Oui, et puis il y a des personnes qui préfèrent payer un surloyer si elles sont très bien où elles sont plutôt que de partir.
Mais vous savez, c'est fréquent. Hein. On l'a, y compris nous, sur la commune, sur le secteur des carrières, des personnes qui sont dans les logements sociaux depuis la création des carrières dans les années 70, qui étaient donc mariées, deux, trois enfants, qui avaient des T4, peut-être même des T5, et des mamies qui se retrouvent toutes seules aujourd'hui, d'ailleurs dans des conditions physiques délicates parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Mais qui veulent pas partir parce qu'ils ont leurs habitudes, leurs souvenirs, leur environnement. Et ça pose quand même... Je me souviens d'une mamie qu'on avait... j'avais pris en charge lors de la distribution des colis de Noël. Je l'avais ramenée aux carrières. Et puis, j'ai dit, je vous accompagne. Il n'y a pas d'ascenseur. Mais non, je vais me débrouiller. Je vais mettre une demi-heure pour monter. Je vais me débrouiller. Je ne veux pas que vous m'accompagniez. Et je dis, mais on va faire une demande au grain d'orge parce que vous seriez beaucoup mieux. Il y a un ascenseur. C'est plus fonctionnel. Et elle dépassait de quelques dizaines d'euros le plafond d'attribution.
Pour la politique familiale et pour le renouvellement des populations, ça a un impact très important. On l'a vu pour les écoles. Voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une contradiction, mais je la comprends dans les deux sens. Hein. Je pense que ce n'est pas un sujet qui est facile, en termes de politique publique, à prendre en compte.
Donc, je vais vous demander de valider cette révision du plan par... Alors, je veux dire simplement le plan partenarial de gestion. Premièrement, de le valider et ensuite de valider le fait qu'on puisse inscrire en guichet 1, puisque c'est simplement officialiser ce qu'on fait déjà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on valide ce plan à l'unanimité, le passage, la demande en tout cas de passage en guichet 1. Le point suivant, c'est également une convention de partenariat. Oui, je sais. Donc, la convention de partenariat des rencontres hors les murs. Et pour ce faire, je passe la parole à Christine Gezins.
Bonsoir. Depuis plusieurs années, la médiathèque invite des auteurs lors de la fête du livre. L'an passé, nous avions reçu Sonia Delzong, une romancière qui écrit des polars. Donc, dans un premier temps, là, je vais vous présenter la convention de partenariat et puis après, on reviendra sur l'auteur qui sera reçu. La convention de partenariat des rencontres hors les murs entre la ville de Saint-Étienne, d'une part, et la ville de Saint-Priest-en-Jarret, d'autre part, service médiathèque. La fête du livre, c'est une manifestation qui est gratuite, fédératrice et conviviale, que tout le monde connaît, je pense, ici. Elle se déroule en octobre, en pleine rentrée littéraire. Et puis, nous rappelons que le service médiathèque de la ville de Saint-Priest dispose de plus de 35 000 documents et permet d'emprunter toutes sortes d'ouvrages, de venir simplement passer un moment de lecture et de profiter de nombreuses animations. La médiathèque organise des animations tout au long de l'année, heures du conte, expositions, lectures, ateliers d'écriture, cafés littéraires. Et elle propose également un groupe de lecture qui a pour but de permettre aux abonnés d'échanger avec simplicité et convivialité leurs impressions de lecture tous les deux mois, et de découvrir l'actualité littéraire et de faire partager leurs coups de cœur. Les rencontres ont lieu tous les deux mois pendant toute l'année scolaire. Elles proposent aussi des ateliers d'écriture ouverts à tous, pour lesquels aucune compétence particulière n'est demandée. C'était un petit peu la publicité pour la médiathèque. Donc cette durée de la convention, elle dure jusqu'au 31 décembre 2023. Il n'y aura qu'une représentation. Enfin, c'est pas qu'il y en aura plusieurs, mais c'est que pour le paiement de ce qu'on devra à l'auteur, devra se faire avant la fin de l'année. C'est pour ça que la convention est jusqu'au 31 décembre. Les engagements de la ville de Saint-Étienne, la communication, ce qui est essentiel. Elle s'engage à mentionner les rencontres hors les murs sur les supports de communication de l'événement suivant. Donc, il y a le programme officiel. Il y a le site internet de la Fête du Livre via la page consacrée aux rencontres hors les murs. Et puis, alors Saint-Étienne prend en charge les frais liés à l'accueil et au séjour des auteurs sélectionnés lors des 3 jours de la Fête du Livre, du 13 au 15, c'est-à-dire tout ce qui est VHR, leur voyage, la restauration, les hébergements. Et la médiathèque, elle s'engage à prendre en charge la rémunération des auteurs invités sur ces rencontres en suivant la charte tarifaire des auteurs illustrateurs de jeunesse et d'honorer avant le 31 décembre 2023 et d'assurer la communication interne de la programmation de ces rencontres. C'est-à-dire que vous allez recevoir par mail cette invitation. Donc voilà. Et puis, ce sera marqué dans le bulletin municipal pour nous. Voilà. Donc, je reviens. Alors, Monsieur le maire expose, dans le cadre des animations littéraires proposées par la médiathèque André Chaise et de la Fête du Livre de Saint-Étienne, qui se déroulera au mois d'octobre prochain, je vous propose d'approuver une convention de partenariat avec la ville de Saint-Étienne. La présente convention a pour objet de fixer les conditions et modalités d'accueil d'un auteur, en l'occurrence M. Jean Kremers, dans le cadre de rencontres hors des murs organisées durant la Fête du Livre 2023 entre la médiathèque André Chaise et la ville de Saint-Étienne, organisatrice de la manifestation. Ces rencontres organisées par la médiathèque André Chaise permettent d'offrir une programmation supplémentaire aux auteurs invités par la Fête du Livre, tout en faisant rayonner la présence d'auteurs au sein des structures de la métropole de Saint-Étienne. La ville de Saint-Priest-en-Jarez s'engage à prendre en charge donc l'ensemble des frais liés à l'organisation technique et à l'accueil des rencontres avec l'auteur invité par la Fête du Livre et à prendre en charge la rémunération de cet auteur. Elle est passée tout à l'heure dans les décisions du maire, ça s'élève à 573,52 € BTC. Donc, c'est une rémunération qui est tarifée par les auteurs illustrateurs de jeunesse. Ces éléments sont précisés donc dans la décision du maire qu'on vous a présentée tout à l'heure. Donc, je vais vous parler juste de Jean Kremers, l'auteur qui sera invité. Donc là, il y a sa BD, si ça vous dit de jeter un œil dessus. Voilà, peut-être que ça vous fera venir à la médiathèque. Hein. Donc, la rencontre aura lieu le 14 octobre, c'est un samedi, à 10h30 à la médiathèque. Donc, il fera des dédicaces. En plus, il passera au Collège des Champs le vendredi 13 octobre du temps de midi. Donc, ça, c'est bien aussi pour les élèves. Et je pense qu'il doit passer à l'école Georges Sand s'ils arrivent à se mettre d'accord sur les horaires. Voilà. Donc, je vous demande donc d'approuver la convention précitée et d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Alors, en fait, ça arrive souvent à la médiathèque d'inviter des auteurs, des artistes. Mais là, comme c'est dans le cadre de la Fête du Livre organisée par Saint-Étienne, il faut qu'on conventionne avec la ville de Saint-Étienne. Et c'est pour ça donc qu'on vous propose cette convention, sachant que vous avez validé tout à l'heure le fait qu'on engage la dépense. Donc il serait cohérent quand même qu'on valide la convention, mais ça on le fait chaque année. Moi j'étais allé voir Sonia Delzong l'an dernier, je dirais presque un petit peu déçu parce qu'elle avait été elle était remplaçante à la dernière minute, et j'avais énormément apprécié en définitive les échanges avec cet auteur de Polar, et je vous conseille là aussi d'aller à la médiathèque prendre ses livres qui sont vraiment très très bien. Donc voilà, alors qui est contre le principe de cette convention? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on valide la convention dans le cadre de la Fête du Livre et du thème Hors les murs. Et je vous remercie. Le point suivant. J'ai enfin pouvoir m'exprimer sur des situations qu'on doit gérer, puisque ça, c'est une demande formelle qui émane de nos tuteurs et des services fiscaux. Donc, je vous rappelle que l'article L332-23, deuxièmement, du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois, renouvellement compris. Je vous informe également qu'il est nécessaire de prévoir l'animation des activités jeunesse au centre de loisirs municipal. Ces missions ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité, évidemment. En raison des tâches à effectuer, je vous propose de créer, à compter du 5 septembre 2023, 19 emplois non permanents sur le grade d'adjoint d'animation, dont la durée de service est de 10 heures par jour d'ouverture du centre de loisirs et en sus des heures de préparation, et de m'autoriser à recruter 19 agents contractuels pour donner suite à un accroissement saisonnier d'activité de l'animation des activités jeunesse du centre de loisirs municipal. En définitive, on normalise, conformément aux instructions du Trésor, le recrutement de nos saisonniers. Avant, on les recrutait par contrat saisonnier. Là, maintenant, il faut que ce soit bien libellé sur le grade d'adjoint d'animation. Il faut que dans le contrat, il y ait un nombre d'heures minimal. On a la même remarque pour notre pôle renfort. Je rappelle que notre pôle renfort, ce sont des gens qu'on avait recrutés, qu'on recrute en contrat horaire pour des remplacements, des surcroîts d'activité et tout. Et j'en parlais encore tout à l'heure avec Frédéric. Ça m'est difficile dans un contrat horaire de garantir un minimum d'heures d'activité. Il y a des mois, la personne va faire un mois plein pour remplacer un salarié absent. Puis il y a des mois, elle va faire 3 ou 4 heures dans le mois. Donc voilà, ça c'est l'attitude actuellement depuis quelques mois de notre tutelle financière et qui nous dit, je réaffirme, en plus ils s'expriment comme ça, hein, donc on n'a pas grand-chose à dire. On leur dit, ils nous disent, il ne faut pas faire ça. On leur dit, d'accord, comment il faut faire? Ils ne répondent pas. Donc ils nous disent, mais bon, il ne faut pas faire ça. Et on dit, d'accord, comment il faut faire? Mais ils ne répondent pas. Bon. Donc là, elle réaffirme que les contrats doivent obligatoirement prévoir la quotité du temps de travail. Il y a un minimum, mais heureusement, il n'y a pas de maximum. Bon, on avance énormément avec ça. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on vous propose. C'est simplement une reformalisation des emplois non permanents d'activités saisonnières. Donc, je vous demande d'accepter de créer 19 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint d'animation pour effectuer les missions d'animation des activités jeunesse du centre de loisirs municipal, suite à l'accroissement saisonnier d'activités de service et de 10 heures par jour d'ouverture du centre de loisirs, en sus des heures de préparation à compter du 5 septembre 2023. La rémunération sera fixée par référence à l'indice brut 367, à laquelle s'ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur, et la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12, article 64-131 du budget primitif 2023. Donc il n'y a pas de changement, il y a une autre présentation pour satisfaire aux exigences de la trésorerie. Des questions par rapport à ça? Bon, et ça, il y a tout un ensemble de petites choses. Je prends un exemple. Je ne sais pas si on mettra au procès-verbal. Marie-Cécile Descaves s'occupe du CCAS. À ce titre, donc, elle est ordonnatrice des dépenses. Mais c'est moi qui signe les bordereaux en tant que président. Mais elle a également une régie. Quand elle encaisse un certain nombre de paiements. Et la trésorerie, elle dit arrêtez tout. C'est interdit. Il y a un cumul ordonnateur-payeur. Donc, on arrête tout. Oui, mais ça fait 25 ans qu'on fonctionnait comme ça. Ah oui, mais on arrête tout. Donc, on arrête tout. Voilà. Donc, en fait, simplement, les transmissions de bordereaux d'ordonnancement, parce que ma signature sur papier, elle n'avait aucune valeur, c'était la clé USB. Donc, maintenant, c'est ma clé USB qu'elle mettra dans le fichier pour télétransmettre. Et donc, il y aura une séparation entre l'ordinateur et le payeur. Voilà. Bon. Et des petites choses comme ça, on en a presque toutes les semaines. En fait, chaque fois qu'un nouveau trésorier arrive, il veut donner de sa patte à un certain nombre de situations qui sont pour nous, bien souvent, ou des évidences, ou des aberrations pratiques, mais bon, on se conforme, voilà. Donc, je vous demande de bien vouloir valider cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie, ça me facilitera la tâche. Donc, il y a deux autres décisions qu'on vous a proposées sur table, parce qu'elles sont, bon, elles revêtent un caractère, je dirais, d'immédiateté. La première concerne la subvention commune pour l'extension du groupe scolaire Jules Ferry. Par délibération 22-06-05 du 7 juin 2022, le conseil municipal a validé le projet d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry et a sollicité une aide financière auprès de la région au titre du contrat Région-Métropole. Initialement estimé à 3 057 281 € par le maître d'œuvre, le montant de ce projet s'élève désormais, après attribution des lots et des marchés, à la somme de 4 607 710 € hors taxe. De plus, pour financer ce projet, la commune avait déposé différentes demandes de subventions, et notamment auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, ce qu'on appelle la DSIL. La préfecture de la Loire vient de nous indiquer que notre projet était bien éligible à la DSIL, mais qu'il avait été classé sans suite par manque de crédits disponibles. Très concrètement, ça veut dire que l'enveloppe a été très, très vite consommée et qu'il n'y a plus de sous, même si notre projet cochait toutes les cases. Concrètement, bon, on va représenter la même demande très vite parce que là aussi, on nous a dit essayez de ne pas tarder parce que l'enveloppe 2024 elle risque également d'être consommée très rapidement. J'en ai parlé à Quentin Bataillon, le député, en m'étonnant que nous ne soyons pas éligibles alors qu'on remplissait vraiment toutes les conditions, en m'étonnant aussi de la façon dont ces enveloppes, la DSIL et la DETR, qui sont les dotations d'État, ont été réparties sur les territoires Loire-Sud, Montbrison et Roanne, et au sein de Loire-Sud, sur la répartition dans certaines communes. Et je me suis étonné qu'on privilégie un terrain de foot et des vestiaires plutôt que la réhabilitation d'une école. Et ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Donc, il m'a dit qu'il comprenait très bien et il a demandé au secrétaire général de la préfecture de nous contacter pour qu'on se rencontre, pour qu'on lui présente le projet et que, bien évidemment, il nous soutienne lors de la prochaine commission. Donc, on reprend le plan de financement. Il n'y a rien de changé par rapport à ce qu'on vous a présenté sur le montant total de 4 607 110 €. Par contre, on vous propose de modifier les recettes. Donc, avant, dans les recettes, on avait l'État, la région, Saint-Étienne Métropole et la commune. Donc, on a retiré la dotation d'État, puisque théoriquement, on ne l'a pas. Bon. Donc, on maintient la dotation, la demande de la région à 20% pour 921 422 euros. Et vous savez qu'avec le fonds de concours métropolitain, c'est moitié-moitié. Donc, 1 842 844 euros pour Saint-Étienne Métropole, sachant que notre demande doit passer au bureau du 14 septembre et au conseil, s'il a lieu, du 28 septembre. Et la commune de Saint-Étienne, pour le solde, 1 842 844 euros, le tout faisant bien 4 607 110 euros. Donc il est demandé, il vous est demandé de valider ce nouveau plan de financement. On verra bien donc après ce qui se passera par rapport à la région, puisque maintenant c'est la région qu'on attend. Alors on attend la région sur la Jules Ferry, on attend toujours aussi la région sur la vidéoprotection. Voilà. Donc bien sûr que pour le Jules Ferry, bon, quand un bataillon a compris un petit peu l'enjeu, il était très surpris de cette décision. Je ne dirais pas que les premiers sont les premiers demandés, sont les premiers servis, parce que ce n'est pas ça du tout. Mais après, on voit un petit peu qu'il y a des communes qui sont apparemment très proches de leurs décideurs.
Il y a donc une cotation objective à l'attribution de ces...
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une cotation. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une représentation dans ces commissions. Donc, nous, notre député ne siège pas ni à la DETR, ni à la DSIL. Il siège au fonds d'attribution des associations. Donc, il se répartit dans les commissions. Et il se trouve que le député qui siège à la DETR et des DSIL, c'est le député du Pilat. Et que les communes du Pilat ont été particulièrement bien écoutées. Mais je dirais que c'est bonne guerre. C'est-à-dire qu'un député ou un sénateur, peu importe, qui connaît bien ses communes et qui connaît bien ses dossiers, c'est beaucoup plus facile pour lui de les défendre en commission, même d'avancer des arguments qui ne sont pas forcément dans la présentation purement administrative pour faire passer son projet. Donc l'idée, c'est quand même qu'on puisse être récupéré sur l'enveloppe 2024. Voilà, bon, bah, je vous demande simplement de valider cette, ce nouveau budget de recettes. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc validé à l'unanimité. Donc, c'est contrariant, hein, vous le comprenez, parce que Jules Ferry, les travaux ont bien avancé. On était donc ce matin avec Quentin Bataillon à la rentrée. Ça avance bien. Bon, sur l'élémentaire, l'aile nord, il y a un petit peu de retard, mais pas beaucoup. Par contre, le chantier a bien avancé sur d'autres postes, en particulier tout ce qui est géothermie, effet, etc. Donc là, on est toujours dans le calendrier, même si ça sera peut-être un petit peu chaud à la fin, mais voilà. Les choses se passent bien, la programmation est bien suivie, et partout on peut un peu gagner du temps ou des actions, c'est fait. Donc voilà, je pense que ça sera un bon projet. Les parents ont l'air satisfaits, les enseignants aussi, y compris à Jean Massé, les parents comprennent très bien. Parce qu'à Jean Massé, donc, vous savez qu'on avait 6 classes, on a une classe supprimée, on n'avait plus que 5 à la rentrée, 7 rentrées aujourd'hui, avec seulement 100 élèves. Évidemment, 100 élèves. On est au seuil de la suppression encore d'une classe. 103. Bon. Alors, l'inspection académique ne nous a pas supprimé une deuxième classe, mais on a reçu un courrier, c'était au mois de mai, au mois de juin, je ne sais plus, l'inspection académique, juillet, qui attirait notre attention sur la diminution des effectifs dans l'ensemble de nos groupes scolaires. Donc, ça veut dire que derrière, alors ils sont au courant de notre projet de fusion, heureusement, mais peut-être qu'à Georges Sand, l'an prochain, on aura une classe qui disparaîtra, je ne sais pas. Ou qui profiteront de la fusion si on y répartit certains élèves. Mais ça sera un débat qu'on aura prochainement. Le deuxième point, donc, à l'ordre du jour, c'est plutôt une information, mais vous avez quand même à vous prononcer. Donc, dans le cadre de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne a déposé une demande d'autorisation environnementale à titre de régularisation administrative pour les activités du banc national d'épreuve sur le territoire de la commune de Saint-Étienne, à Molina-la-Chazotte, 5 rue de Méon. Au terme de l'article R181-38 du Code de l'environnement, dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au 3 de l'article R123-11 ou au 1 de l'article R123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur le territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivants la clôture de l'enquête publique. Bon, alors, c'est antidaté volontairement. Cette enquête a lieu du 18 septembre 2023 au 18 octobre 2023, inclus en mairie de Saint-Étienne. Donc, le banc d'essai, qu'est-ce que c'est? Le banc d'épreuve, pardon. C'est la même chose. Ouais, tu l'as visité. Alors, la société Banc National d'épreuve, appelée BNE dans la suite du dossier, se situe au 5 rue de Méon à Saint-Étienne, et exploite depuis 1988 l'activité de tir sur site de Saint-Étienne, anciennement localisé sur un autre site. 1998 voit la création de l'activité laboratoire d'essai de résistance balistique de matériaux sur un site secondaire situé dans la même rue. La société BNE est installée sur un site d'une surface totale d'environ, on va dire, 20 000 m². Les activités de stockage sont réalisées dans les deux locaux de stockage, enterrés et extérieurs, et dans le bâtiment principal, à raison des besoins pour les essais seulement. Les activités d'essai en laboratoire sont réalisées dans le bâtiment principal, dans une zone réglementée. La société BNE est spécialisée dans l'épreuve et la neutralisation d'armes à feu. Les activités exercées actuellement sur le site sont les suivantes. Épreuve des armes, laboratoire, donc homologation des munitions, essais de résistance balistique et neutralisation. La BNE opère principalement pour le compte de fabricants de munitions, d'entreprises, de matériaux et de particuliers. Donc voilà, alors, pourquoi on est concerné? Parce qu'on est dans la périphérie, si vous voulez, de cette localisation dans la zone industrielle de Molina. Voilà. Donc, je vous demande donc de vous prononcer quant à cette autorisation, mais je vais quand même passer la parole à Claude, qui l'a visité.
Oui, dans le cadre d'une commission de Saint-Étienne Métropole, on a visité ce BNE. J'ai appris plein de choses. J'ignorais complètement que toutes les armes qui entraient sur le territoire français étaient testées à Saint-Étienne, les arbres, même les fusils de chasse, etc. Je pensais que c'était de l'échantillonnage, mais absolument pas. Chaque arme est testée. Ils les testent avec une charge qui est à peu près 130% de la charge optimale prévue, de façon à bien voir que ça résiste. Ils essaient également des blindages, il y a tout un tas de choses. Et il y a également un gros travail de destruction des armes qui sont récupérées. Alors, pléthore de Kalachnikov, etc., etc., qui sont donc neutralisées, détruites. Certaines sont simplement neutralisées, mais relativement peu. La plupart passent au pilon, elles sont détruites. Inutile de vous dire que pour entrer sur le site, il faut montrer patte blanche et patte au pluriel. Voilà.
Donc je vous demande de bien vouloir valider cette autorisation, mais en fait qui nous impacte très peu. On est simplement dans le périmètre et il y a donc au moins une dizaine de communes qui vont être sollicitées dans le cadre de cette enquête publique. Qui est contre ? Corinne ?
J'allais dire, je propose à la préfecture de valider notre demande de financement pour l'école en contrepartie qu'on valide leur.
Sauf que ce n'est pas la préfecture, c'est la CCI de Lyon.
C'est marqué préfecture, c'est pour ça que je
réponds complètement. Bon. Voilà. Tout passe par la préfecture. Mais il y a la préfecture et après il y a les commissions préfectorales. Ce n'est pas forcément le même univers.
Voilà, mais c'était juste parce que je suis agacée.
Donc voilà, je vous demande de valider cette autorisation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on valide cette autorisation pour le banc national d'épreuves. Donc oui, effectivement, Claude a raison, c'est un banc national. Donc c'est ici que tout se passe. Capitale de l'armement. Donc pour moi, j'en ai fini sur ce conseil municipal. Donc vous voyez, il a été relativement bref. Quelques rappels. Donc aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. On a le forum des associations samedi à partir de 8h30. En gros, jusque vers 13h30. Enfin, on verra bien à quel moment on mettra en place le buffet dînatoire. Donc je vous invite, en fonction de vos disponibilités, beaucoup m'ont répondu, à être présents sur la table, sur le stand que tiendra le conseil municipal, avec quelques petits supports de documentation pour accueillir les nouveaux arrivants. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups, puisqu'on supprimera la manifestation qu'on a organisée annuellement au mois de novembre et qui était vraiment lourde en gestion et en organisation avec un retour relativement insatisfaisant. Donc voilà, vous venez, on discute avec les personnes, pas seulement les nouveaux arrivants, et tous ceux qui veulent discuter avec nous. Hein. On prend en compte, voilà, on s'explique. Ça sera un moment d'échange et de rencontre. Et je vous rappelle donc notre séminaire du samedi 23 septembre à 8h30 en mairie. Notre député Quentin Bataillon viendra se joindre à nous à 8h30 pour discuter avec vous, pour vous rencontrer. Puis après, il nous laissera travailler. Ce séminaire a pour but, d'une part, de faire un point très concret sur l'ensemble de nos dossiers. Jules Ferry, réhabilitation du centre-bourg, situation sur nos projets de cession immobilière, lycée Nord et Jean Massé, et puis peut-être d'essayer d'examiner quelques dossiers en termes d'investissement qu'on pourrait programmer si toutefois on a le financement, parce que c'est le nerf de la guerre, pour les années 2024 et 2025. Là aussi, il y a je dirais pas des priorités, mais il y a des stratégies à mettre en place. D'une part, bien sûr, il y a les JO 2024, et là, je pense à l'équipement tennis et paddle sur la Bargette. Et puis, le plan de relance métropolitain qui court jusqu'au 30 juin 2024. Donc là, nous, on a consommé l'équivalent de deux dossiers. Donc, vous avez vu qu'on demande 1,8 million. Les enveloppes municipales peuvent aller jusqu'à 3 millions. Donc, il faut qu'on réfléchisse très, très vite à un autre projet qu'on pourrait leur soumettre en cofinancement. Ça va être délicat. On pensait en particulier aux problématiques de rénovation thermique de l'école Georges Sand. Mais là, c'est tout ou rien. Hein. Où on met une bâche sur la verrière, où on revoit complètement le bâtiment et ça peut chiffrer très vite. Donc, il va falloir qu'on se décide, nous, très rapidement pour dire on y va, on fait venir des experts, ils nous disent ce qu'il faut faire et on lance le projet parce qu'on va être contraint très, très rapidement par les délais que je viens de vous citer. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, pour ceux qui le peuvent, à samedi.